Bonsoir. Plusieurs automobilistes de Kinshasa se plaignent d'avoir parcouru de longs trajets pour s'approvisionner en carburant, principalement l'essence. Les reporters des radios Capi ont constaté cette situation lundi 27 novembre, notamment à Kitambo, Bandalungwa, Kiasavubu, Lingwala et Gombe. Les utilisateurs des engins motorisés se plaignent aussi de cette situation. Pour certains, celle-ci a commencé le week-end dernier. Face à cela, le président de l'Association des pétroliers privés de la RDC, Emery Mbatibope, demande au gouvernement d'honorer ses engagements en couvrant convenablement les manques et pertes des pétroliers tels que décidés dans la composition de la structure des prix des produits pétroliers. Cela pour mettre fin aux perturbations que cela occasionne dans l'approvisionnement de ce produit stratégique. Pour Emery Bopé, c'est depuis plus de 2 ans que l'État paye en dons d'ici, voilà, à ses subventions, ce qui ne permet pas aux pétroliers de se réapprovisionner en temps voulu. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Emery Mbatibope, qui est président de l'Association des pétroliers privés de la RDC. Monsieur Mbatibope, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Jean-Louis Miasuekama, journaliste et spécialiste des questions économiques et des développements. Jean-Louis Miasuekama, bonsoir.
Bonsoir.
Nous devrions avoir dans cette émission Tony Tchermani, conseiller technique aval du ministre des hydrocarbures. Malheureusement, il vient de se désister, il n'a pas obtenu le quitus de son ministre à Kinshasa. Vous nous suivez sur la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur TSTV, Canal 867, mais vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Perturbation dans la vente des produits pétroliers, principalement l'essence, observée depuis hier lundi à Kinshasa. Interrogés par nos reporters, plusieurs Kinois se sont plaints d'avoir parcouru de longs trajets pour s'approvisionner. Pour certains, la situation a même débuté depuis le week-end. Babel Mpongo Masimango s'est rendu à Kitambo, Bandal, Kiasavubu, Lingwala et Gombe. Voici son reportage.
Sur terrain, toutes les stations totales vendent de l'essence et du gasoil, et pas vraiment de longues files à part à Brikine selon le témoignage des conducteurs. Par contre, chez Engen, seul le gasoil est disponible dans certaines stations. Nous avons été ravitaillés samedi, mais en quantité minime, nous a affirmé un pompiste à Soussimat. Chez Cobuil, par contre, pas de vente. Cela fait 2 semaines que nous n'avons pas été servis, nous a-t-on dit, partout où nous sommes passés. Ceci constitue un manque à gagner, nous a confié un responsable d'une station sous anonymat.
Nous sommes en rupture des stocks et nous ne vendons pas. On nous a dit que bientôt on sera approvisionné, mais jusque-là, on attend toujours, on ne vend pas.
Mais là, on vous a vu servir un camion militaire.
Une station, c'est comme un véhicule, c'est-à-dire quand on est au rouge, il y a quand même des stocks de sécurité. On peut aider par exemple quelqu'un qui est en difficulté. Parce qu'on a des stocks de militaires, on peut aider des militaires, on peut aider quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, mais on ne vend pas au public parce qu'on n'a pas assez de stocks.
Les usagers des engins motorisés se plaignent de cette situation.
J'ai des moods, je suis motard, je passe tout, j'ai parcouru là-bas, toutes les stations sont fermées. Il y a que Total qui va aussi là-bas à Brikine. Il y a trop de gens. Ça nous prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Mais j'ai trouvé encore plein de gens. On est presque 12 heures. Nous allons travailler jusqu'à demi-journée à cause d'essence.
Notez toutefois que le prix du litre à la pompe reste inchangé.
Merci Babel pour ce reportage. Emery Mbatibope, je rappelle que vous êtes président de l'Association des pétroliers privés de la RDC, perturbation dans la vente des produits pétroliers, principalement l'essence. Qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce qu'on peut parler juste de perturbation ou des ruptures des produits pétroliers?
Merci beaucoup, madame. Premièrement, je voulais d'abord rectifier. Vous savez, vous êtes une grande station de radio et beaucoup d'auditeurs sont en train de suivre votre émission. La présentation même de votre chapeau, donc de votre titre, ne cadre pas vraiment avec ce qui est essentiel. Vous dites que Vous avez observé, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de coins où on ne vend pas. Et vous dites que dans l'interview qu'on a eue avec moi au téléphone, je demande au gouvernement d'honorer les engagements. Bon, je pense pas que c'est comme ça que moi je pourrais présenter ça. Au fait, quel est le problème?
C'est quoi le problème?
Le problème est celui-ci. Les produits pétroliers, d'abord, nous sommes dans un partenariat avec le gouvernement. Nous, en tant qu'opérateurs, nous sommes partenaires du gouvernement. Les prix du produit, lorsque nous l'amenons dans notre pays, par toutes les trois zones d'entrée, il y a un coût pour acquérir ce produit. Donc, le coût d'acquisition de ce produit. Le prix lui-même, il ne dépend pas de nos réalités ni de certaines de nos conditions que nous avons ici. Ce sont des produits qui viennent de l'étranger et ces fournisseurs amènent ces produits, ils les vendent à leur prix. Mais nous avons quand même dans notre pays une particularité, c'est que ces produits viennent en consignation. Et les prix que nous utilisons dans la même structure des prix, parce que le prix des produits que nous vendons dans toute l'étendue de la République, ce sont des prix structurés. Alors, lorsqu'on fait une moyenne, parmi tous ces fournisseurs qui amènent leurs produits, on fait une moyenne pondérée, on donne un prix qui sera appliqué dans la structure. Et ce prix, il est en devise. Et nous le vendons peut-être en francs congolais, nous devons prendre comme paramètre les prix de ces produits qu'on appelle PMF, on prend aussi les taux d'échange qui nous permet d'acquérir les devises fortes pour pouvoir réapprovisionner. Bon, il se fait que, comme partout ailleurs, les gouvernements, compte tenu du pouvoir d'achat, compte tenu de certaines de nos réalités, il se met toujours autour d'une table avec nous, les professionnels. On discute sur la vérité des prix, qui est une partie de ce que nous prenons en brut. Lorsque vous prenez le prix d'acquisition de produits, vous prenez le taux d'échange, vous prenez le volume, les trois paramètres que nous tenons compte pour voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme variation au niveau du prix. Si ces paramètres varient, dans le sens de la hausse comme de la baisse, automatiquement, ça va influencer le prix à la pompe. Mais il se fait que le gouvernement, qui y a toujours un souci de sa population, prend en charge une partie du prix. C'est-à-dire, quand vous achetez un litre de produit, dans ce prix, il y a une partie qui n'est pas payée par vous, consommateurs, mais c'est l'État qui le prend en charge. Mmh. Alors, allez-y comprendre, dans une suite logique, lorsque vous importez le produit pour lequel vous n'avez pas la mainmise sur le prix, parce qu'il est prix coté en bourse, il est le prix qui tient compte des assurances et tout ce qui en suit, fret et tout, il arrive ici, il a un prix X. Mais le gouvernement a quand même fait l'effort pour que nous puissions accéder à ces prix. Nous l'achetons, nous le vendons, mais nous le vendons à perte. D'autant plus qu'il est vendu à un prix réduit par rapport à la vérité des prix. Le gouvernement prend cette partie du prix des consommateurs pour réverser cet argent auprès des professionnels, auprès des pétroliers qui ont vendu, mais avec une perte. Mmh. Et il y a une commission qui siège au ministère de l'économie qui traite de tous ces points-là. C'est hautement stratégique qu'on ne peut pas venir dire, par exemple, qu'il y a un problème. Mais tout ce que nous vivons, ça répond à la loi de l'offre et de la demande. Vous avez dit que vous avez circulé sur autant de stations qui sont fermées, qui n'ont pas suffisamment de stocks. C'est tout à fait normal, ça peut arriver. Parce que nous, quand nous achetons ce produit, on passe par les banquiers, on essaye de prendre soit des crédits. Mais il y a aucune banque qui nous fait maintenant confiance parce que nous avons promis, nous n'avons pas payé à temps. On perd la crédibilité. Maintenant.
À qui la faute ? Au gouvernement ?
J'arrive. Je suis en train de vous donner un peu les chemins parce que en fait, les gens risquent de comprendre qu'il y a une crise, ou il y a pénurie, il y a ceci. Non, ce sont des situations qui arrivent. Alors, lorsque nous ne sommes pas en mesure de refaire les stocks par le simple fait qu'il y a une bonne partie de ce que nous devrions avoir comme fonds, comme moyens, mais qui se trouve dans la partie que j'ai appelée perte et manque à gagner. Les pertes et manques à gagner, c'est-à-dire en tenant compte du prix qui devait être appliqué, et que le prix-là n'a pas été appliqué parce qu'il y a une partie que le gouvernement devait en principe rendre aux pétroliers. Il se fait que le temps que l'on certifie et le temps qu'on vient nous payer, c'est vraiment, ça prend plus de temps. Automatiquement, ça nous met en difficulté. Pas seulement nous, les pétroliers distributeurs et les autres, mais même les logisticiens. Par exemple, le CEP Congo, c'est une banque de pétroliers. Une banque pétrolière, s'il faut dire. Les RESCOM, SP Sakobil, ils réceptionnent des produits des tierces, qui sont des fournisseurs, et ils le mettent en place, comme on dit, une mise en place, suivant le message que le fournisseur envoie pour dire « de mon stock dans vos livres, veuillez transférer autant de mètres, de tonnes ou de mètres cubes à telle société. » Et à ce moment-là, vous faites la mise en place. Mais si ils arrivent à prendre même le produit qui n'appartient pas aux X, Y, et on arrive quand même, parce qu'on doit tenir compte aussi de la population, on doit remettre le produit dans les stations pour distribuer. C'est très important. Et des fois, on le fait. Parce que nous sommes dans un partenariat. Dans un partenariat, il peut y avoir des moments où nous gagnons, il peut y avoir des moments où nous perdons, il y a des moments où le gouvernement aussi fait des concessions. C'est comme ça, les partenariats. On ne peut pas tous les jours penser que nous devons toujours gagner, mais il y a des moments où on fait des concessions, on fait des sacrifices, parce que nous avons ces soucis de faire participer tout le monde et que ces denrées-là, ces produits pétroliers, soient accessibles à tout le monde.
Oui, mais en ce moment, qu'est-ce qui se passe, M. Emery Mbachibope? Vous ne voulez pas qu'on parle de rupture?
Non.
C'est une perturbation qui va s'arranger d'ici là?
Oui, donc je ne vais pas appeler perturbation, parce qu'en fait, j'étais en train de parler de la loi de l'offre et de la demande. Quand vous prenez, par exemple, on vous dit telle station n'a pas de produit. Cela veut dire quoi? Prenons Kitambo Magasin. Il y a la route qui va vers l'hôpital de la rive, oui. Il y a ceux qui viennent de Mont-Galiema, de l'autre côté. Il y a ceux qui viennent du côté de Sola. Il y a ceux qui viennent de Montfleury vers de l'autre côté Singuma. Il y a ceux qui viennent de Prince Kasavubu, ok. À l'entrée de ma campagne, il y a des stations. Si dans ces stations, il n'y a pas de produit, qu'est-ce que le chauffeur fait? Il se précipite vers Kitambo Magasin. Si c'est lui qui venait sur Ngouma et il ne s'est pas approvisionné vers Saint-Luc, il se précipite vers Kitambo Magasin. C'est lui qui vient de l'hôpital de la rive, mêmement. Et s'ils arrivent au niveau de Kitambo Magasin et qu'ils n'ont pas trouvé de produit, ou peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de stock, ils vont prolonger jusque peut-être vers Aurore, ou vers Mondjiba et quelque là-bas, Colonel Mpia ou quelque part, où ils peuvent s'approvisionner. Quelle est la conséquence? La station-là va avoir des fils, parce qu'il y a tous ces chauffeurs qui pouvaient s'approvisionner à une station située à un niveau, mais il n'a pas trouvé, il fait tout son mieux pour avoir quelque chose. Et si ça va faire, ça va faire des fils. C'est tout à fait logique. C'est vrai. La partie que le gouvernement devait donner aux pétroliers, cette partie-là que nous appelons perte et manque à gagner, ça prend trop de temps. Et on fait trop de promesses, on ne les paye pas en temps réel. Si cette partie de perte et manque à gagner est payée en temps réel, c'est-à-dire après avoir certifié, parce que nous venons de certifier jusqu'à juin 2023. Ok? Donc, quand nous prenons toute cette enveloppe, on est au-delà. On a beaucoup d'argent qu'il faut donner à ces pétroliers pour qu'ils puissent réapprovisionner. Donc, il y en a d'autres qui sont même en difficulté vis-à-vis des logisticiens. Du coup, c'est que le Congo ne peut pas continuer à donner encore du produit, parce que ce produit, ça ne lui appartient pas, ça appartient aux tierces, et les tierces aussi attendent que le système soit réapprovisionné pour que la stabilité intervienne.
Vous êtes quand même en contact avec le gouvernement, vous, pétrolier.
Oui.
Mais qu'est-ce que le gouvernement vous dit? Pourquoi il y a ce retard dans le paiement?
Bon, ça, je ne sais pas, mais de toute façon...
Mais puisque vous êtes en contact, on ne vous dit pas pourquoi, on ne donne pas les raisons.
Autour d'une table, j'ai parlé du partenariat. Le partenariat veut dire que chaque fois que c'est possible, on se retrouve autour d'une table. On discute. On voit, et ils sont au courant. D'ailleurs, vous avez suivi le conseil des ministres de la semaine passée, le premier ministre qui avait présidé. On a parlé de ce problème de carburant. Donc c'est un problème qui est sur la table, je crois que dans un avenir proche, puisqu'ils sont même là, ils sont en train de voir, ils vont libérer ce qu'ils vont libérer, de manière à ce que ce pétrolier mette du carburant, parce que pendant ce temps, ce carburant est très important, parce que nous sommes en pleine campagne, il y a des véhicules qui doivent bouger, il y a des bateaux qui doivent bouger, tout le monde a besoin du carburant, même s'il faut transporter des câbles électriques pour aller installer quelque part, mais il faut avoir du carburant dans le véhicule. Donc le carburant, c'est vital, mais nous espérons qu'avec avec tout ce que vous avez fait, vous nous avez appelé...
Toutes les perturbations ils sont dans le transport...
Ouais, toutes ces perturbations, ils ont compris, ils vont lâcher.
On espère. Alors, Jean-Louis Miassé Kouama, vous êtes journaliste, spécialiste des questions économiques et des développements. Vous, comment vous analysez cette situation? L'État ne paye pas en temps voulu les pétroliers. C'est que ce qui perturbe un peu l'approvisionnement en carburant, c'est principalement l'essence. Même dans le transport en commun, c'est la situation est vraiment difficile hein, depuis le week-end. Comment vous analysez cette situation?
Oui, comme je disais, c'est vrai, la situation est assez difficile au point que on arrive plus vite aujourd'hui à pied qu'en moto, en voiture. Et on se rend compte qu'on est à ligne 11, on est toujours de plus en plus nombreux. Enfin, même j'observe quand je sors de chez moi, sur 24, je regarde un peu les gens. Je crois que le flux de gens a grossi. Et effectivement, j'ai vu des files d'attente, justement, pas loin de chez moi, dans une des stations, parce que l'autre avait fermé, alors c'était une file. Et la file bouchait même, c'était aussi une sortie sur 24 qui bouchait. Avec tous les événements que ça peut causer. Mais aussi, il faut faire remarquer quand même, je pense que j'ai eu à passer, je crois, il y a un mois ou un mois et demi sur les problèmes, mais là, on était déjà en amont. C'est-à-dire qu'on parlait cette question justement de paiement des pertes et manques à gagner. Et M. Boupé vient de préciser qu'on vient de certifier pour jusqu'à janvier 2023, mais nous nous retrouvons pratiquement en fin d'année, nous sommes pratiquement fin novembre, nous allons entamer le dernier mois de 2023. Mais certifier ne veut pas dire payer. C'est ce qu'il faut retenir. Mm-hmm. Certifier, c'est justement qu'on essaye d'avoir une vision cohérente, claire, de ce qui a été consommé, vendu, et ce que l'État doit faire. Ou pour remettre, parce qu'en fait, c'est un produit qui est subventionné, qui est administré, et donc cette subvention pour permettre, pour huiler la machine. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe aussi. Mais il faut dire aussi que on a parlé, au moins, je l'ai entendu, qu'on a parlé de ce problème à la réunion du gouvernement. Mais depuis qu'on a commencé à subventionner le carburant, bien qu'il y a aussi d'autres mauvais incidents, j'avais fait allusion à cette diminution des prix pendant la période du Covid, pendant qu'il y avait une flambée des produits pétroliers. Maintenant, nous nous retrouvons pendant cette période de la guerre en Russie, russo-ukrainienne, et qui avec un gros producteur comme la Russie, et sans oublier ce comment ça brûle aussi au Proche-Orient. Or, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, c'est le bastion des chocs pétroliers. Donc on n'est pas, on peut dire, parti pour la gloire. Et donc, ce que moi je déplore, c'est justement ces retards, parce que justement les pétroliers producteurs ne peuvent pas les plus se présenter chez leurs banquiers, parce que tout est question de confiance quant aux accords de crédit, parce que on sait que vous êtes payé. Parce que justement, dans ce domaine, pour bien huiler la machine, il fallait la régularité. On le dit pour les salaires, on le dit pour les paiements, il faut des paiements réguliers. Ne fût-ce qu'il y a un retard d'un mois ou de trois mois maximum, mais cette régularité, c'est ce qui permet de mettre, de huiler la machine, de faire les gens confiants. Mais aussi, peut-être, je peux être un peu dur, le gouvernement n'a pas pris à bras le corps le problème et n'a pas mesuré l'ampleur du problème. C'est-à-dire, quand ils décident de subventionner, quelles sont les dispositions qu'ils prennent pour prioriser des lignes de crédit, des lignes budgétaires pour cette subvention, qui, à mon avis, doit être prioritaire par rapport à d'autres dépenses. Il y a les salaires, il y a des dépenses pour la guerre, il y a je ne sais quoi, mais c'est dans ce sens-là.
Malheureusement, la personne du gouvernement dans cette émission pour répondre à cette question.
Allez-y. Non, mais c'est aussi ce qu'on déplore, parce que il faut communiquer, ce sont des milliers de gens qui vont à pied, ce sont des milliers d'automobilistes qui sont nerveux, et on est en période de campagne, on va entrer dans la période des fêtes, et aussi, c'est un ensemble de coûts en temps, des coûts en transport, des coûts en fourniture, des coûts en pas mal de questions. Donc, c'est ces mesures qui doivent accompagner ce système de subvention pour éviter ces retards dans les paiements des manques à gagner, parce que derrière aussi, on va le voir, ça, avec toute la structure qu'on a maintenant, pas seulement la structure des prix qui sont élaborés par le ministère de l'économie, parce que c'est dans ses attributions, mais toute la structure des pétroliers distributeurs, des intervenants, etc., ça ressemble à une jungle.
Alors, qu'est-ce qu'il faut? Bienvenue, Mia, c'est Kama.
Est-ce que
le gouvernement devrait-il continuer à subventionner ou bien il faut réellement mettre fin à ce partenariat et que les pétroliers fixent vraiment le prix réel
Bon, l'idéal, c'est la vérité des prix. Ça, c'est un fait. Mais il faut tenir compte de pas mal de réalités. Sociales, économiques, etc. Et donc, d'abord, je pense que oui, ils ont eu une réunion où on a parlé, mais maintenant il faut voir une véritable réunion où on prend des dispositions, où qu'on regarde dans les autres lignes de crédit, écoutez, ça c'est pas prioritaire, et on en fait une priorité. Parce qu'il faut accélérer un peu les choses, réduire, ils sont pas plus de un an et demi, deux ans de manque à gagner, ben, il faut voir comment dans les six mois on arrive à peut-être réduire déjà d'une année ou pratiquement de six mois pour redonner déjà la confiance, mais avec un travail de fond. C'est vrai qu'il y a un travail que avait sollicité le cabinet du ministre de l'économie en son temps avec le cabinet Mazars pour assainir le secteur, pour trouver la traçabilité. Il y a le travail aussi du marquage moléculaire qui est fait, d'accord, mais il est impérieux de prioriser cette question. C'est-à-dire qu'il faut d'autres réunions, déjà entre les membres du gouvernement, pour que l'on puisse s'assurer, dire voilà, on prépare une enveloppe conséquente, mais le travail de fond, c'est l'assainissement du secteur. Connaître des vrais intervenants, réduire peut-être le nombre aussi, et parce que il faut se le dire, la vente à la station, en fait, n'est pas très rentable. C'est plutôt ceux qui viennent avec leurs gros tankers qui vous vendent, qui ont des terminaux pétroliers dans d'autres pays, c'est eux qui gagnent. Mais là, c'est comme ça qu'à la fin, ils sont sur fil tendu et ils ont peu de marge.
Merci. Les auditeurs et internautes sont très nombreux à nous suivre sur la page Facebook de Radio Capi. Il y a Antipas Bidia qui nous écrit depuis la ville de Kisangani. Il dit ceci, c'est grave ici, chez nous à Kisangani, un litre de carburant coûte aujourd'hui 10 000 francs. Est-ce que c'est la même situation que Kinshasa, M. Bopé?
Merci beaucoup. Mais avant peut-être de répondre à notre auditeur, je voulais quand même dire à mon frère que peut-être qu'il est journaliste, mais il doit comprendre qu'il y a une très bonne organisation dans la profession pétrolière en ce qui concerne les prix. Et dire qu'ils jonglent, moi, je ne crois pas. C'est tellement organisé que tout se passe très bien. Deuxièmement, il parle de l'assainissement. Nous étions dans une dernière réunion pour valider certaines recommandations. Il y a un cabinet qui a fait l'audit, d'abord de la structure des prix. Il y a eu la Banque mondiale et tous les autres qui nous accompagnent sur le plan économique, budgétaire et tout. Nous avons répondu à toutes les questions. L'assainissement, oui, ça va aller. Et les autres aspects, et même l'allègement, alléger la structure des prix, nous sommes en train d'y travailler. Je crois que ce n'est pas, peut-être qu'il ne comprend pas, mais moi je confirme que ce n'est pas la jungle, mais tout est très bien fait et ça se passe très bien. Je réponds à l'auditeur de Kisangani pour dire que le problème dans la zone est, donc dans la zone du côté Kisangani, et ils ont la possibilité d'avoir du produit qui vient soit de l'Est directement, qui passait dans les temps par Arou et qui passait aussi par exemple par Mahagi jusqu'à atteindre Kisangani et ses environs. Mais il s'est fait qu'il y a l'état des routes, qui les routes en ces jours sont complètement délabrées. Les véhicules qui quittent par exemple la route de Mahagi pour atteindre Kisangani ou qui quittent Arou sont embourbés et la boue arrive jusqu'au niveau même des phares des véhicules. Maintenant, comment est-ce qu'on peut amener le produit, parce que c'est le produit pur de Kenya, il y en a d'autres qui passent par qui passent par nos pays voisins, que je ne vais pas citer d'autres, mais ce produit ne peut pas facilement atteindre Kisangani. Alors la seule voie qui reste maintenant, c'est la voie fluviale, qu'on est en train maintenant de développer davantage pour que le produit quitte Kinshasa par des barges et ça va atteindre Kisangani. Ça va diminuer. En fait, c'est comme on dit ici, quand il y a beaucoup de consommateurs qui demandent le même produit, c'est là qu'ils détiennent même les petits stocks. Ils font quoi? Ils montent des enchères. Pour Kinshasa, moi je crois que la zone qui est approvisionnée régulièrement, c'est la zone ouest qui prend Kinshasa et Congo central et Bandundu et puis en fait tous ceux qui sont aux alentours ici, ça marche parce que même Kinshasa, donc la zone ouest approvisionne aussi les Kasaï en passant par Ilebo, dans les temps ça passe aussi par Benadibele. On peut facilement amener du produit de Ilebo jusqu'au Kananga, Kananga Mweneditu, et voire même en ramener jusqu'au Katanga si par exemple la voie sud traîne. Le problème que nous avons maintenant, je crois que si d'ici peut-être la semaine ici, et que l'on pouvait déjà passer payer au travers les banques le perte et manque à gagner, il y aura suffisamment de produits qui vont stabiliser. Parce que quand on prend la mise en place de la ville de Kinshasa, on peut atteindre 800 ou 1500 mètres cubes tout produit. Ça, c'est le top. Alors, par jour, on peut faire une mise en place de 800, 700, ça dépend, tout produit. Mais on peut arriver de top, on peut faire une mise en place même de 1500. Mm-hmm. Alors, si toutes les stations sont approvisionnées, je crois que les véhicules ne vont plus faire des fils, parce que même la spéculation, des fois aussi c'est le même conducteur qui crée une psychose. Non, tu sais, mon cher ami, moi je suis passé par Kasavubu, je suis passé par telle station, d'ailleurs je vois qu'il n'y a pas de camion. Pendant qu'il n'a même pas l'information. Donc, il voit seulement que son ami lui a transmis un message, lui parle à quelqu'un d'autre, et ça embrase la ville. On dit que non, il y a une crise, il y a ceci. Nous avons résisté pendant... Il a parlé de temps de Covid. Nous étions, si pas parmi le pays, qui n'ont pas connu le problème des crises. Les produits pétroliers étaient vendus suffisamment, pendant que même en France, même ceux-là qui sont là, des pays de vieilles, donc ils ont tous les éléments, mais ils ont connu des problèmes très sérieux. Le problème de la subvention, parce que vous avez parlé, c'est un problème réel, même ailleurs.
Oui, je veux vous donner la parole pour en parler justement avant cela, mais on va prendre d'abord cet auditeur qui nous appelle de Colosi, puisque lui aussi il parle justement de la subvention.
C'est Patrick Mbouli Kassama depuis Colosi dans la province du Lualaba. Je pense qu'il faut repenser autrement la problématique de subvention dans ces secteurs et laisser les pétroliers s'organiser eux-mêmes et que l'État joue juste le rôle de régulateur sans avoir un rôle en termes de contribution financière. D'autant plus que ces derniers ne jouent pas sa partition, non seulement dans ces secteurs, mais dans beaucoup d'autres secteurs de la vie nationale. Et tout cela va tomber sur le dos des citoyens en termes de hausse des prix des produits de première nécessité. Je pense qu'il est impératif qu'une solution soit trouvée avant que les spéculations ne prennent les dessus.
Alors, monsieur Gopé, voilà. Bon. Vous étiez en train souvent de parler des spéculations.
Ouais.
Voilà.
Bon, la subvention, moi je pense que ce n'est pas seulement chez nous que cela se passe. La subvention, dans d'autres, sous d'autres cieux, ils utilisent la subvention. En fait, l'État joue le rôle...
Parlons du cas de la RDC. Est-ce qu'on peut repenser autrement?
Autrement, bon...
La problématique de subvention.
Je ne pense pas que l'on puisse parler autrement, à moins que l'on passe directement à la vérité des prix. Or, la vérité des prix est difficile à appliquer, d'autant plus que le produit pétrolier fluctue. Donc, le prix lui-même, vous ne pouvez pas voir le baril calé à un prix pendant 3 mois. Il change à tout moment. D'où, dans la composition ou dans les textes, on dit si l'un des paramètres varie dans l'intervalle de variété de 5% à la hausse ou à la baisse. Donc, lorsque on parle de la subvention veut dire qu'on tient compte, les journalistes l'ont dit, on tient compte du coût de la vie, du pouvoir d'achat, les sociales. On essaye de voir, est-ce que si nous mettons le prix X, parce que ce prix va influencer non pas seulement les automobilistes, mais ça va influencer d'autres secteurs de la vie. Par exemple, le concept de manioc qui quitte Bandundu pour arriver à Kinshasa, ce chauffeur, ce transporteur va impacter son prix du carburant. Et le sac va augmenter. Et même ceux qui achètent aux plus petites mesures vont aussi souffrir. Tout ça mis ensemble, gouverner, c'est prévoir. On essaie de réfléchir à la place des consommateurs. Et on dit non. Si nous mettons ces prix, il y aura les effets qui vont aller toucher d'autres secteurs, d'où appliquons celui-là et nous prenons la partie. En fait, comment est-ce qu'on avait réfléchi pour résoudre le problème de la subvention? Dans la structure des prix, on a mis une ligne. Cette ligne, en fait, c'était comme, en ce moment, je peux même appeler comme une parafiscalité. C'est la ligne stock de sécurité qui était collecté à l'époque à l'auteur de même 12 millions des fois de dollars. Mais aujourd'hui, avec cette ligne qui était devenue comme un levier, au cas où on se rend compte qu'il y a les paramètres qui ont tellement varié dans le sens de la hausse, qu'est-ce qu'on fait? On réduit sur la ligne pour corriger à l'interne l'attitude de prix. Je pense que vous comprenez.
Oui, oui.
Parce que dans les temps, l'État pouvait céder une partie de sa fiscalité. L'État peut céder, par exemple, maintenant là, il y a d'autres taxes qui étaient définies dans la structure des prix que l'État a supprimées totalement. Alors, la ligne stock de sécurité, c'était une ligne qui était comme un levier qu'on pouvait toujours bouger. À la pompe, on garde les prix, mais on bouge les paramètres à l'interne pour essayer de trouver un équilibre. Ok? Mais cette ligne, dans l'État, c'était un matelas qu'on mettait de côté le peu de moyens pour qu'après avoir certifié
comme il a dit, certifier, ce n'est pas payer. Quand on a certifié, et tous les représentants des institutions et tout, ils signent, non? Et cette certification, ne tardait pas, on pouvait prendre de l'argent dans ses comptes ou dans ses matelas pour payer. Mais pour le moment, le matelas, là, il est presque vide.
Vide. Alors, Jean-Louis, on va prendre aussi, pour vous, cet autre auditeur qui nous appelle de Kinshasa, René Gloire.
C'est René Gloire, tu papa, à Kinshasa. Je disais que dimanche, moi, j'ai été victime parce que toutes les situations, services, les bandales ne fonctionnaient pas. J'ai dû marcher à pied avec ma moto qui devenait une lourde charge pour pouvoir me réapprovisionner en carburant. Et chez le petit détaillant. Mais le risque chez le petit détaillant, c'est qu'il mélange le carburant avec un peu d'eau, ce qui représente un gros risque pour le moteur qui risque de s'abîmer. Et comme les stations-service ne fonctionnent pas régulièrement, cela va aussi impacter sur le transport au quotidien, sur le prix du transport. Et ça nous pose vraiment en grande difficulté. La seule recommandation que je pourrais donner au gouvernement, c'est de l'exhorter à pouvoir respecter les accords conclus avec les agents, les structures en place pour pouvoir régler cette difficulté le plus vite possible.
Alors, c'est un témoignage d'un Quinois qui a été victime de cette perturbation en approvisionnement des produits pétroliers. Il a été victime. Comment vous dites que c'est faux, M. Bopé?
La densité du produit. Quand vous prenez de l'eau, vous mettez dans un...
Ah, vous parlez de...
Du mélange
au carburant.
Impossible.
Alors, Jean-Louis, réaction.
Bon, disons, effectivement, c'était difficile parce qu'il a trouvé plusieurs stations autour de chez lui fermées. C'est une conséquence logique quand on ferme, quand les stations ne fonctionnent pas, parce que là, M. Boupé l'a expliqué, les stations ne sont pas fournies. Les stations, le stock de sécurité, ils ne peuvent pas, l'utiliser comme ils le veulent, etc. Et donc, c'est la conséquence. Parce que même, je n'ai un cas, arrivons, le prix du baril venant à baisser, ça mène une baisse de prix moyen frontière. Mais moi, je ne conseillerais pas au gouvernement, en ce moment-ci, de baisser les prix. Vous comprenez? Je ne conseillerais pas au gouvernement de baisser les prix, parce qu'on est déjà bien en dessous du prix, de la vérité des prix. Mm-hmm. Au contraire, permettons que ça crée de la marge pour pouvoir refaire le stock dont stratégique pour cela, pour faire permettre avoir des recettes qui permettent de payer les manques à gagner, parce que le problème, cette subvention, ça devient d'un côté on y est attaché comme un carcan, mais on y est presque obligé pour ne pas arriver à une explosion sociale. Mais un jour, il faudra quand même connaître la vérité des prix. Mais la vérité des prix demande qu'on change pas mal de paramètres. C'est-à-dire que le niveau économique, le niveau de revenus des gens doit augmenter. N'oubliez pas, par exemple, qu'on parlait des gilets jaunes en France. Les gilets jaunes en France sont nés du fait aussi le noyau dur de personnes qui n'arrivaient pas à acheter du carburant pour se chauffer à la maison. Donc, ça montre comment c'est stratégique. Et donc, pour le moment, à court terme, on doit mettre toutes les stratégies par le gouvernement, qui doit aussi, tout en tant que partenaire, mais entre eux, au sein d'eux, trouver une stratégie pour qu'on commence à payer les manques à gagner. Mais il y a aussi une autre chose qui est assez importante, c'est-à-dire que il y a quand même une certaine évolution démographique. Prenons la ville de Kinshasa. Peut-être parce qu'elle est, il y a les institutions, il y a un certain nombre d'infrastructures, ainsi de suite, contrairement peut-être à d'autres pays, d'autres régions où le carburant vient souvent de très loin. Et donc, vous imaginez que la moitié des immatriculations annuelles sont prises par Kinshasa. À un moment, il y avait au moins 48 000 à 58 000 immatriculations par an, dont la moitié était prise par Kinshasa. Donc, il faut nécessairement qu'on travaille, qu'on réfléchisse pour pouvoir trouver vraiment des solutions pour régler ce manque à gagner. Et il y a par exemple, je sais que l'UBA a donner une ligne de crédit à la Sonahydro de 130 millions de dollars pour pouvoir acheter des produits raffinés. Bon, l'idée c'est que on veut seulement revenir comme avant où c'était l'ancêtre de Petro-Congo, de Petro-Zaïre, qui fournissait pratiquement du carburant à tout le monde, etc. Donc, mais il faut vraiment plus réfléchir, avancer dans l'assainissement. C'est parce que maintenant aussi, on voit tout le temps qu'on peut-être on a perdu avant, et qu'avec ce qu'on a connu, guerre en Ukraine, Covid, etc., qu'on se ment, comme dit M. Bopé, et c'est vrai, parce que enfin, moi aussi, en tant qu'ancien membre du cabinet du ministère de l'économie, maintenant je le voyais aussi, on a invité à pas mal à d'autres réunions, ainsi de suite, où il fallait expliquer. Donc, il faut vraiment restructurer les choses, parce que la parafiscalité ne pourra plus être...
Mais malgré la perturbation dans la vente des produits pétroliers à la station ou aux stations-service, les prix n'ont pas changé, même les transports, les prix restent inchangés.
Les prix restent inchangés, mais un autre prix que vous supportez, c'est la file d'attente, c'est le fait de parcourir tout ça. Donc le coût, le prix ne change pas. Hein, s'il n'y a pas cet équilibre par les prix, il y a cet équilibre qui se fait par le temps, par les quantités, par ce que vous pouvez acheter, etc., par pas mal de choses.
Alors, je voulais dire, est-ce que cela signifie que c'est une situation qui sera peut-être vite réglée, la solution sera trouvée très, très rapidement entre le gouvernement et les pétroliers?
Oui, mais la solution, on la connaît à court terme, très court terme, c'est de faire un vrai geste envers les pétroliers distributeurs, et puis de faire vraiment un chronogramme et de prioriser des paiements. C'est-à-dire que peut-être le plus possible qu'on peut faire, hein, même si ça peut paraître fait, mais qu'il y ait une régularité. Si ça doit être chaque mois, chaque deux semaines, ainsi de suite. Hein, et que peut-être, là ils touchent rien, mais si on commence à leur payer ne fût-ce que 20% de ce qui est programmé, et puis on passe à 40%, ainsi de suite, peut-être là, on peut avoir des solutions.
Vous pensez, M. Bopé, que c'est faisable? Question de volonté de la part du gouvernement?
Oui, il y a un problème de volonté aussi, et puis la disponibilité. Bon, moi, je crois qu'on ne dira pas que le gouvernement ne paye pas. Et ils ont toujours pris les dispositions pour payer.
Ils ne payent pas régulièrement. Mais,
voilà, c'est la régularité, et le temps de paiement. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, on est au mois de décembre, s'il faut même dire, parce que le novembre, il nous reste presque trois jours, et que nous sommes à la certification du mois de juin. Maintenant là, et que tous ces autres mois, même je peux dire même deux années ou deux années et demie, on n'a pas payé. Bon, allez-y comprendre que nous qui sommes PME, hein, bon, j'essaye de me mettre à côté les majors, je comprends, ce sont des grandes entreprises. Mais nous, les PME, lorsque j'ai mon capital qui peut être à un certain niveau, et que le perte et manque à gagner que nous attendons pour les uns, quand vous regardez les stations-service des privés dans la ville ici, vous trouverez que beaucoup de stations sont fermées. Parce qu'ils ne peuvent plus. Ils ont envoyé même les gens en congé technique, les travailleurs avec des familles, tout ça. Vous voyez, donc c'est dur. C'est pourquoi nous nous demandons tout simplement que on tienne compte de cet aspect, qu'on paye le perte et manque à gagner. Mais seulement, je donne un conseil. Que les gens ne profitent pas de la psychose qui circule parce qu'il dit le temps qu'on peut faire, les fils et tout. Non, laisse-moi faire des stocks dans la maison. Non, ne faites pas ça. Ne prenez pas du carburant dans des bidons pour aller cacher parce que vous attendez. Non, moi je pense que d'ici 2-3 jours, ça sera dur, hein. Il dit des choses sans avoir de base. La situation va être régularisée. Je crois que le gouvernement sait ce qu'il est en train de faire. Et je ne peux pas comprendre que pendant ces temps où le besoin en carburant demeure indispensable, qu'on puisse abandonner la profession pétrolière pour ne pas refaire les stocks. Non, je ne crois pas.
Merci, Monsieur Bopé. Merci, Jean-Louis. Nous sommes à la fin de notre émission. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir quelqu'un du gouvernement dans cette émission pour répondre aussi aux nombreuses questions des auditeurs et internautes de Radio Capi. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans la présentation de cette émission. Willem Lungamba, Guy Maté, Jonathan Fanani, Clément Chimanga, Hervé Vauquia, présentation et coordination Kelly Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.